que dire après ces deux jours, même pas, je dirais un jour et demi, depuis hier matin. On est à peine à 24 heures depuis notre arrivée en tout cas et les débuts de nos rencontres. Je sais que le Seigneur m'a beaucoup apporté déjà dans mes contacts avec vous, mes entretiens avec vous, les partages avec vous, les moments de, je peux dire, de rire, mais aussi de pleurs dans certains cas. Et ceci me touche beaucoup. Je vous remercie de nouveau de votre accueil de Joyce et de moi pour ces moments ensemble, donc autour de la parole de Dieu. Je vous invite à me demander, je suis prête à vous donner mon adresse email s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, que vous souhaiteriez approfondir, soit dans la discussion, soit par l'écrit. Seulement, ne me posez pas trop de longues questions parce que j'ai un paquet d'emails comme ça auxquels je dois répondre déjà. Donc. Mais je serai content d'être en contact avec vous. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce temps ensemble? Déjà, il y a quelques chants qui ont préparé le message aujourd'hui. Vous ne le savez pas, je pense. Mais le Saint-Esprit est avec nous et il dirige. Il vous a dirigé dans le choix des chants. Il y en a certains qui donc auront un rapport plus ou moins direct, même plus, avec ce que nous voulons dire aujourd'hui. Mais après avoir vu donc sommairement ce que c'est que la croissance spirituelle, et puis ensuite des défis, difficultés pour vivre la croissance spirituelle, je voudrais aborder ce matin comment reconnaître et vivre la croissance vers la maturité que nous avons en Christ. Nous l'avons dit plusieurs fois, et ça a été dit par d'autres, que nous avons toute plénitude en Jésus-Christ, par sa présence en nous. Toute la divinité de Dieu est en nous si Jésus-Christ habite en nous. Et c'est un fait que trop de chrétiens ignorent, ou bien s'ils n'ignorent pas, ils ne vivent pas ce qu'ils connaissent. Et il faut vraiment vivre cette vie de Jésus, de cette plénitude de vie qu'il nous donne. Un chrétien triste est un triste chrétien. Vous avez compris la subtilité. Moi, ce n'était pas très subtil, là, finalement. Non, mais c'est vrai, il y a des chrétiens qui ne donnent pas envie parce qu'ils ne vivent pas la plénitude de ce que Dieu leur a donné. Je ne dis pas qu'on doit être joyeux. Il y a des gens qui ne sont pas de nature, qui sont plus sobres peut-être, moins rigolants, etc. Bon, je ne dis pas qu'il faut rigoler tout le temps si on est un bon chrétien, mais on doit avoir quand même une certaine joie. C'est aussi le fruit de l'esprit d'avoir la joie, et cette joie peut se manifester de toutes sortes de manières. Donc, nous allons y arriver. Mais ce matin, je voudrais commencer à reconnaître et vivre la croissance vers la maturité que nous avons en Christ en disant quelles sont les bases de la croissance vers la maturité, vers la plénitude, vers l'épanouissement en Christ. Parce que Dieu veut que nous soyons des chrétiens épanouis. Et quelles sont les bases? J'en ai trois, je vais mentionner trois. La première, et je vais revenir sur dans Éphésiens chapitre 4, la première base, si vous voulez, de la croissance vers la maturité en Christ, c'est une certaine stabilité dans notre vie spirituelle aussi bien que dans nos sentiments, une stabilité. On n'est pas en train d'être soufflé par tout vent qui arrive. Il y a des chrétiens qui sont très susceptibles à chaque nouvelle idée qui passe et ils s'y accrochent et ça dure un certain temps. Et puis, un peu plus tard, il y a une nouvelle idée qui est présentée et puis voilà, donc on est consumé par cela et puis ça dure un certain temps. Non, une stabilité. La parole de Dieu est une parole qui nous donne de vivre une stabilité. Le chrétien qui avance avec Dieu est bien assis dans sa foi, sans être influencé et ballotté par tout vent qui souffle. On peut dire que c'est un perfectionnement ou une maturité progressive. Alors, je lis de nouveau dans Éphésiens 4, versets 13 à 16. Pour moi, ce sont des versets de base pour notre maturité en Christ, notre croissance en lui. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité. Vous avez entendu, tous ensemble. C'est l'affaire de tous. L'Église doit s'encourager mutuellement à avancer avec Christ. Il y en a qui sont plus lents, mais il ne faut pas les traîner derrière soi, mais il faut les encourager à avancer. La rapidité ou la lenteur est une affaire personnelle, mais surtout que nous soyons en train de marcher ensemble selon la doctrine que Dieu nous donne dans sa parole. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte spirituel, à un stade de maturité qui manifeste la plénitude qui nous vient de Christ. De cette manière, nous ne serons plus de petits enfants spirituellement, ballottés comme des barques par des vagues et emportés ça et là par le vent de toutes sortes d'enseignements à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour affermir dans l'amour sa cohésion et sa forte unité venant de toutes les articulations dont il est pourvu pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. C'est-à-dire que nous sommes unis et nous fonctionnons normalement. Les membres du corps de Christ, soumis à la tête, fonctionnent de manière coordonnée ensemble. C'est très important. Quand on n'est pas soumis à la tête, ça peut provoquer physiquement, psychologiquement, spirituellement. Bon, mais la tête, c'est Christ dans ce cas-là. Si le corps n'est pas soumis à la tête, c'est grave. Parce que le corps peut faire n'importe quoi. Bon, alors comment reconnaître si l'on vit la stabilité que Paul décrit? Comment savoir si l'on arrive vers la maturité, la plénitude et l'épanouissement en Christ? Les versets 4 à 16 nous donnent quelques clés. Je vais relever ce que j'ai déjà lu, mais enfin, je vais relever et insister sur certains points. Au verset 14, on n'est plus au stade de l'enfant spirituel dans nos actions et nos réactions. Un chrétien de 20 ans qui est toujours enfant spirituel, ça ne va pas. Il devrait quand même avoir atteint un certain niveau de maturité. De cette manière, si nous allons vers la croissance dans le Fils de Dieu, si nous arrivons à l'état adulte. De cette manière, nous ne sommes plus des enfants ballottés comme des barques par des vagues et emportés ça et là par le vent de toutes sortes d'enseignements à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Il faut dire qu'à l'époque de l'apôtre Paul, il y avait des gens qui allaient d'église en église avec de nouvelles doctrines qu'ils enseignaient et qui tiraient les gens, qui essayaient de les attirer vers d'autres choses que l'évangile qui avait été annoncé. Le bon évangile, l'évangile exact et correct et divin que Paul avait annoncé. Il y avait des gens qui faisaient cela. Il y avait des gens qui voyageaient et qui essayaient de détourner les gens parce que, « Ah, j'ai une nouvelle vérité. Alors, ça, c'est mieux que l'apôtre Paul vous a dit. » Alors, je ne dis pas que l'apôtre Paul, ce qu'il a écrit quand même est la parole de Dieu, inspirée de Dieu. Est-ce que vous le croyez? Ça vient de Dieu. Et il le dit. Et Paul a passé beaucoup de temps avec Dieu pour recevoir cette parole qu'il a donnée, cet enseignement qu'il a donné. Tout le monde n'a pas apprécié. Donc, il y en a qui sont restés enfants et qui étaient ballottés, ça et là, donc, sans cette stabilité. Parce que la deuxième, bon, on n'est plus au stade de l'enfant, la deuxième partie du verset 14, on arrive à une stabilité dans notre croyance, dans nos relations sociales même, et dans la sagesse dont nous avons parlé hier, ce qui nous permet de faire la part des choses et de prendre de bonnes décisions. Avec la sagesse, nous pouvons, avec l'aide de Dieu, prendre les bonnes décisions. Au verset 15, la première partie du verset, on vit une relation caractérisée par la vérité dans l'amour. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour. Je connais quelques personnes qui disent, même chrétiens, tant pis, je dis la vérité et bon. Non, mais ce n'est pas une attitude chrétienne. Je m'excuse, hein. Excusez-moi si je vous blesse. Si vous êtes de ceux qui ont l'habitude de dire la vérité, mais qu'on dise la vérité dans l'amour. Il m'est arrivé dans mon ministère à avoir à reprendre certaines personnes, ce qui n'est pas facile pour moi, mais de l'enrober d'un amour, de ne pas rejeter la personne, mais expliquer qu'il y avait quand même une faute, un problème, en disant la vérité, mais dans l'amour. Bon, il faut le dire. Vous allez dire, oui, mais Jésus, qu'est-ce qu'il a repris certaines personnes de son époque, les chefs religieux? Oui, mais assurez-vous, vous n'êtes pas Jésus, hein. Donc, attention. Jésus savait le faire. Je ne suis pas sûr que vous sachiez le faire de la bonne manière. Donc, deuxième partie du verset 15. On vit une croissance continue en Christ, notre chef. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandissons à tous égards vers celui qui est la tête, Christ. Ceci implique une soumission à Jésus où il n'est pas la tête. Si on n'est pas soumis à Jésus, on a une autre tête. Il y a un autre directeur de notre vie. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes soumis de toute façon, hein? Vous êtes soumis à quelque chose. Préférez-vous être soumis à celui qui vous aime et qui a donné sa vie pour vous et qui vous aime d'un amour inconditionnel? Ou être soumis à un tyran, parce que c'est l'alternative, hein? Un tyran qui vous veut du mal? Voilà. La décision n'est pas difficile pour moi et j'espère que pour vous non plus. Soumission à Jésus. Savoir se soumettre à Dieu de la bonne manière est un signe de maturité spirituelle. Et cette croissance continue pendant toute notre vie. Notre vie avec Christ ne devient jamais monotone. Est-ce que vous êtes dans une phase de votre vie chrétienne, une phase où, je ne sais pas, tout est monotone? On vient à l'église, on chante les mêmes chants, on prie les mêmes prières et tout, et puis on se sent vraiment, c'est monotone. Non, Dieu ne veut pas une vie chrétienne comme ça. Il veut une vie dynamique. Si je rentrais à la maison un soir et que je disais à Joyce, écoute, notre mariage, franchement, ça ne m'apporte plus grand-chose, c'est monotone. C'est toujours la même chose. Tu fais la cuisine. Moi, je suis terré dans ma tanière où je prépare mes messages, mes publics, où j'envoie des emails et tout ça. Et toi, tu es là, tu fais le lessive, tu fais la cuisine, etc. Donc, quand il y avait des enfants, bon, changer les couches et tout ça. Bon, ben, c'est monotone, cette vie. J'aime plus. Alors, quel en serait le résultat? Non, j'ai jamais dit ça. Hein. J'ai jamais dit ça. Et de nos jours, on est toujours en train de dire, ah, qu'est-ce que c'est formidable, la vie que nous avons ensemble. Ça fait 54 ans et on se le dit toujours. On se le dit toujours. Bon, enfin, je ne vais pas prolonger là-dedans, mais la vie avec Dieu est une vie passionnante. Ne le trouvez-vous pas? Oh, il y a des moments où, oui, on stagne. Je connais ça. Mais la vie avec Christ est une vie passionnante. Nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, Jésus. Donc, l'une des bases de notre croissance vers la maturité, c'est une stabilité spirituelle, aussi bien que dans tous les domaines de notre vie. Une deuxième base de la croissance est une vie qui ressemble de plus en plus à Jésus. Au verset 13, il a fait don de ses hommes, non pardon, ainsi nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'adulte, au stade de la maturité où se manifeste la plénitude qui vient de Christ. Nous allons, je pense que dans la colombe, c'est un peu plus clair, nous grandissons pour ressembler à Jésus-Christ. Nous lui ressemblons. Mais comment est-il Jésus? Comment ressembler à Jésus? Ben, il faut savoir comment est Jésus. Est-ce que vous ressemblez à Jésus? Je ne sais pas. C'est à vous de voir. Mais je peux vous donner quelques indications dans Philippiens chapitre 2, versets 3 à 8. C'est vrai? J'ai dit une blague, non?
C'est marrant.
C'est marrant, merci. Philippiens 2, versets 3 à 8. Alors, vous voulez un portrait de Jésus? Voici un portrait parmi d'autres. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, on en a parlé ce matin, chanté ce matin, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Christ. Lui, qui était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, et il a pris la condition d'un serviteur et en se rendant semblable aux hommes. Se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme, il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort sur la croix. Et nous l'avons chanté ce matin. Donc, comment est Jésus? Le chrétien mûr possède la pensée de Jésus-Christ. Il pense aux autres. Comment cela peut-il se faire? Parce que on peut penser aux autres quand on sait qui on est en Christ. Le problème est qu'un certain nombre de gens sont fragiles dans leur sentiment de ce qu'ils sont, dans leur image d'eux-mêmes, et ils ne peuvent pas servir les autres parce que pour avoir une certaine, comment dirais-je, certitude de qui ils sont, ils doivent un peu dominer, ils doivent se faire avoir, se laisser faire, non, ils doivent se montrer, être mieux que les autres, supérieurs aux autres. Donc, ils n'ont pas une bonne image d'eux-mêmes, ils ne savent pas qui ils sont vraiment en Christ, mais Jésus, il savait qui il était. Et c'est pour ça qu'ils pouvaient s'humilier. Les gens qui ne savent pas s'humilier ne savent pas vraiment qui ils sont en Christ. Je peux vous le garantir. Le chrétien mûr sait qui il est, quelle est sa véritable identité. Il n'a pas donc besoin de se mettre en avant et d'insister sur ses droits. Oh là là, ça c'est le mal du siècle. Mes droits, j'ai le droit. Ah. Vous entendez ça? Mes droits. Alors, et vos droits? S'il y a un conflit entre mes droits et vos droits, qu'est-ce qu'on doit faire? La Bible dit l'humilité. L'humilité. Jésus n'a pas insisté sur sa place, nous disons au verset 6. Il était humble. Il n'a pas considéré qu'il devait rester au ciel avec Dieu, mais il est descendu en prenant la forme d'un homme. Il était complètement Dieu et complètement homme. Au verset 7, nous lisons qu'il a pris la condition d'un serviteur, d'un esclave même. Et nous savons dans Jean 13 qu'il a même lavé les pieds des disciples avant de mourir pour eux et pour nous. C'est le roi du monde. Et il s'est abaissé pour laver les pieds de ses disciples, ce qu'un serviteur de bas niveau doit faire. Et Jésus l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il savait qui il était et pourquoi il était sur terre. Savez-vous qui vous êtes? Et pourquoi vous êtes sur terre? Ou est-ce que vous devez vous élever aux yeux des autres pour vous sentir bien? Dans Jean 13, 12 à 17, je vais pas les lire, Jésus a enseigné que le plus grand, c'est celui qui sait prendre la place du serviteur, celui qui sait servir. Et ceux qui font le service dans l'Église, le service pratique, ceux qui rangent les chaises, ceux qui font le ménage, qui nettoient les toilettes, qui vérifient qu'il y a assez de papier dans les toilettes et tout cela, et ainsi de suite, bon, qui font la vaisselle après les repas fraternels, ce sont des gens qui servent. Ben, ils ne prêchent pas. Ben, je vous assure, excusez-moi, je n'ai rien contre les prédicateurs. Bon, mais il est aussi spirituel que celui qui prêche ou qui enseigne. Et peut-être plus s'il le fait dans un esprit d'humilité et le prédicateur le fait dans un autre esprit. C'est curieux. Dieu, il renverse complètement les valeurs humaines. Et il donne d'autres valeurs. Dans Marc 10, 45, nous lisons que Jésus est venu pour servir et pour donner sa vie. Pourquoi? Comment Jésus a-t-il pu faire cela? Parce que Jésus savait qui il était et pourquoi il était venu. Il avait un sens profond de son identité. Et vous? Qui êtes-vous ce matin? Quelle est votre véritable identité? Quelle est votre véritable raison d'être sur cette terre? Donc, une certaine stabilité, une vie qui ressemble de plus en plus à Jésus, et la troisième base de notre croissance une vie remplie et contrôlée par le Saint-Esprit. J'ai déjà mentionné plusieurs fois que le chrétien possède toute la plénitude de la divinité. Et au fur et à mesure que le chrétien vit la croissance en Christ, il apprend à laisser le Saint-Esprit contrôler sa vie. Qui contrôle votre vie aujourd'hui? Vos passions, vos désirs, vos objectifs dans la vie ou le Saint-Esprit? Qui va vous aider à trouver les bons buts, les bons objectifs pour votre vie. Et ces ressources, dont les ressources du Saint-Esprit sont en nous, je ne vais pas les lire encore, mais dans Éphésiens 6, versets 10 à 18, nous avons les armes de l'Esprit, nous avons l'équipement de l'Esprit pour tenir ferme et ne pas tomber dans le jour où nous sommes tentés. Vous connaissez ce passage sans doute. Et une vie contrôlée par le Saint-Esprit est une véritable vie d'amour, de joie et de paix, car le Saint-Esprit porte son fruit dans la vie du croyant qui désire croître en Christ. Paul nous dit dans Galates 5, 22, ce que le Saint-Esprit produit dans la vie du chrétien, le fruit de sa présence en nous. Et qu'est-ce qui produit Jésus? Le Saint-Esprit, pardon. Est-ce que vous savez? Est-ce que vous pouvez répéter ça? Le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour. Amour. La joie. Non, mais la joie. Vous êtes joyeux? Non, mais on va y arriver. Hein? Non, mais tu mets le doigt sur mon problème à moi. C'est ça, c'est terrible. Non. L'amour, la joie, la paix, la patience. La patience. Oui, la bonté, ça dépend de la traduction, hein. La bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La douceur, c'est pas la mièvrerie, hein, la douceur. Ah non, c'est pas se faire marcher dessus à tous les coups comme ça. Ah, je suis doux, je suis doux, je suis rien. avant que Joyce et moi ne tombions vraiment amoureux l'un de l'autre, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu penses de moi? Elle a dit, ben, je pense que tu es mou. Ah, j'ai content, hein? Non, ce n'est pas la mollesse, la douceur. La douceur, c'est le caractère de Jésus. Alors, si vous voulez être doux, ressemblez à Jésus et vous serez doux. Je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos à vos âmes, il a dit. Et la maîtrise de soi. Est-ce qu'on peut vraiment avancer avec Dieu si on ne peut pas maîtriser sa vie? Mais c'est le Saint-Esprit qui nous aide. Tout seul, on a beaucoup de mal à se maîtriser. Mais le fruit du Saint-Esprit en nous est aussi de pouvoir nous maîtriser. Comment peut-on affirmer que la présence du Saint-Esprit est une indication de la maturité du chrétien? Vous savez, le fruit de l'Esprit n'est pas autre chose que le portrait de Jésus-Christ. Et si nous manifestons le fruit de l'Esprit de plus en plus, nous sommes en train de ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Parce que ce fruit-là, les 9 éléments que nous avons lus, c'est le portrait de Jésus. Est-ce que vous êtes comme ça? J'espère que nous sommes tous en train de le devenir. Mais nous n'arriverons jamais. Surtout la patience. Est-ce que c'est ça ton problème aussi, Laura? Non, c'est pour ça que tu as cité le... C'est le problème de beaucoup de monde. Un de mes petits-enfants a écrit récemment, « Oh, la patience, c'est pas... J'en ai besoin. C'est pas mon point fort. » Bon. Moi, j'ai dit « Amen », d'après ma propre expérience. Chacun, nous devrions nous poser régulièrement une ou deux questions avec, sans nous culpabiliser. D'abord, jusqu'à quel point ces différents aspects du fruit de l'esprit sont-ils présents dans ma vie? Jusqu'à quel point? Et deuxièmement, comment les développer davantage? Il n'y a qu'une seule façon. Ça? Et ça? Bon, évidemment, la cassette ne voit pas ce que je fais, mais c'est la Bible, les moments passés avec Dieu, mais les moments dans la prière où on laisse des temps, du temps pour Dieu. Laissez Dieu nous parler. Vous savez, j'ai été bien loin dans ma vie avec le Seigneur avant de comprendre. Il fallait que j'arrête un petit peu de bavarder avec Dieu et d'écouter sa voix. Nous avons, pas loin de chez nous, nous habitons Logne, et juste à côté, il y a le bois de Logne, qui pour moi est une véritable bénédiction parce que je dois faire ma marche à pied dans ce bois. J'ai choisi de le faire dans ce bois. En général, je ne suis pas dérangé, et c'est le moment où je parle avec Dieu. Et par moments, je pose des questions à Dieu, et si j'écoute, Dieu va me répondre. Il va me répondre parce que je connais sa parole, plus ou moins, et il me parle de sa parole. Et je me souviens une fois d'avoir dit, mais je ne peux pas faire ça. Comment est-ce que je peux faire ça? Je dois suivre deux pasteur éminent et apporter la troisième prédication après ces deux pasteurs. Comment est-ce que je vais pouvoir le faire? Et j'ai entendu ce voix, non pas audible, mais qui m'a dit, David, sois toi-même. Oublie ces deux autres pasteurs éminents. Sois toi-même. Il m'a parlé. C'était sa parole pour moi ce jour-là. Et je suis allé et j'étais moi-même avec Dieu, bien sûr, bien sûr. Le chrétien que je suis, et le Seigneur a béni. Alors, laissez Dieu vous. Ne baratinez pas toujours Dieu, mais laissez-lui parler à votre vie. Dans votre esprit, vous n'entendrez probablement pas, vous n'êtes pas Jeanne d'Arc, vous n'entendrez pas les voix, donc, peut-être, mais vous aurez la certitude de ce que Dieu veut vous dire. Bon, après avoir regardé les bases de la croissance vers la maturité, alors, comment vivre la croissance qui mène à la maturité? Quels moyens pouvons-nous mettre en œuvre pour grandir spirituellement, pour croître en Christ? Bon, je dirais que le moyen le plus important est en menant une vie équilibrée en Christ. Le chrétien mûr est une personne profondément équilibrée et pas excessif dans un domaine ou dans un autre. Je voudrais prendre un moment pour développer ce que c'est qu'une vie équilibrée en Christ. Et être équilibré en Christ, c'est une vie qui est parfaitement en harmonie entre l'être et le faire, entre ce que je suis et ce que je fais, entre ce que nous sommes et ce que nous faisons. Les deux sont complémentaires et nécessaires, les deux. Trop souvent, nous avons tendance à pencher vers l'un ou l'autre. Certains insistent plutôt sur l'être, ce que je suis. D'autres, plus activistes, insistent sur le faire, ce que je fais. Bon, il faut faire, agir, etc. Réveillez-vous, secouez-vous, agissez, sans penser trop à ce qu'on est. Si nous connaissons vraiment Jésus, nous allons faire et agir de manière équilibrée. Jésus dit que la foi, ou ce que nous sommes, l'être, sans les œuvres, ce que nous faisons, est une foi morte. On peut avoir la foi, une grande foi, et ne rien faire. Donc, Jacques dit que cette foi-là est morte. La bonne action, c'est-à-dire ce que nous faisons, est le résultat de notre foi, de ce que nous sommes. Si nous avons la foi qu'il faut avoir, nous allons agir. Ce sera le produit inévitable de notre vie avec le Seigneur. Nous allons agir. Mais sur la base de ce que nous sommes en Christ. Nous n'allons pas devenir ce que nous sommes en Christ en agissant, sans c'est mettre la charrue devant les bœufs. Nous sommes, et à cause de ce que nous sommes, nous agissons. Une vie qui est vraiment biblique et dynamique est une vie qui a trouvé l'équilibre entre l'être et le faire, ce que je suis et ce que je fais. Et le résultat est une paix et une harmonie intérieure, une piété personnelle qui glorifie Dieu. On est équilibré. Le chrétien qui ne vit pas cet équilibre est un chrétien qui n'a pas une paix intérieure. Avant d'aller plus loin, je voudrais mentionner plusieurs remarques importantes. Nous ne sommes pas tous pareils. Certains sont plutôt activistes, c'est vrai, c'est dans leur nature. D'autres plutôt réfléchis et contemplatifs. En plus, nos dons spirituels ne sont pas tous pareils. Nous avons des dons différents. Ceux qui servent, par définition, sont plus actifs, par exemple, que celui qui enseigne, qui doit se plonger dans la parole de Dieu et réfléchir beaucoup. Mais l'un n'exclut pas l'autre, quand même. Nous vivons des situations individuelles qui ne sont pas du tout semblables et elles changent aussi. Parfois, nous aurons besoin d'être plus actifs, à d'autres moments, plus contemplatifs et réfléchis. Je me demande, je pense à Jésus. Alors, est-ce qu'il était activiste ou contemplatif? Hein? Équilibré. Merci. C'est rassurant de savoir que Jésus était équilibré, oui. Mais j'ai l'impression qu'il menait une vie quand même qui était un peu dingue, quoi. Excusez-moi, enfin, c'est de l'argot. Sa famille a dû venir pour essayer de l'enlever pour la ramener à la maison parce qu'il passait trop de temps, il se fatiguait, il s'épuisait. Mais écoutez bien, Jésus avait un ministère qui a duré 3 ans et demi. Si le ministère de Jésus allait durer 50 ans, je me demande s'il aurait eu le même type de ministère actif, le même activisme dans son ministère. Mais il savait qu'elle avait 3 ans et demi, c'est pas beaucoup. Donc, je ne sais pas, c'est une question que je me pose, qui m'intéresse. Mais nous ne devons pas excuser un manque d'équilibre en nous cachant derrière notre caractère, notre personnalité, notre situation. Non, il faut que j'agisse, un point c'est tout. Ou il faut que je réfléchisse. Bon, mais d'accord, oui, vous avez des tendances, mais soyons des chrétiens équilibrés. C'est comme ça que nous pouvons avancer et croître en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous ne devons pas excuser un manque d'équilibre en nous cachant derrière notre caractère. Une vie équilibrée commence par ce que nous sommes. Dieu s'intéresse d'abord à notre caractère chrétien. C'est ça qui l'intéresse d'abord. Quel est notre caractère chrétien? Ensuite, ce que nous savons, notre intelligence. Et seulement ensuite, à notre compétence, à ce que nous faisons. Vous allez donc à un rendez-vous d'embauche de travail. Qu'est-ce qu'on vous demande? Ce que vous êtes ou vos compétences? Vous savez, le monde a tout à l'envers. Bon, je dis pas, évidemment, c'est un bon patron, il veut savoir la compétence de celui qui risque d'embaucher. Mais pour Dieu, l'important, c'est d'abord notre caractère en tant que chrétien. Et puis, ce que nous savons, et ensuite notre compétence, ce que nous sommes capables de faire. Les trois sont liés, mais il y a la tentation, surtout dans le monde d'aujourd'hui, à insister sur ce que nous savons et ce que nous faisons plutôt que ce que nous sommes. C'est notre caractère chrétien. Une conséquence de ce que je viens de dire est que les activistes veulent arriver à la croissance et à la profondeur spirituelle tout de suite. Et vous savez, il faut du temps pour arriver à ce genre de caractère. Mais les activistes, ils ne veulent pas mettre le temps. C'est très caractéristique de l'époque où nous vivons. Nous avons des trains grande vitesse. Nous avons des ordinateurs qui vont de plus en plus vite, mesurés en croix. On mesure les ordinateurs en croix. Nanosecondes, non? C'est pas vrai? Qu'est-ce que c'est qu'une nanoseconde? Non? Vous n'êtes pas d'accord? Vous les ingénieurs, hein? Hein? C'est un milliardième de seconde. Alors, entre ça et ça, il y a un milliard de nanosecondes. Vous achetez un nouvel ordinateur qui fait quelques milliers de nanosecondes plus tôt que le mien et vous me méprisez parce que votre ordinateur va plus vite. Ben c'est ça l'esprit de notre époque. Et nous ne voulons pas mettre le temps pour vraiment mûrir et grandir dans le Seigneur. Mais la croissance spirituelle est une affaire de long terme et relève de notre caractère spirituel, plus que ce que nous savons et ce que nous faisons. Vous savez, les gens qui travaillent les bijoutiers créent des perles. On manufacture d'une matière synthétique une perle qu'on appelle une perle de culture qui est nettement moins précieuse que celle que Dieu crée sur des années. Ce que vous trouvez quand vous ouvrez un huître. Et Dieu a fait celui-là avec beaucoup plus de temps que celui qui, dans un laboratoire, a fabriqué une perle. Alors, lequel préférez-vous? J'ai jamais pu offrir à ma femme de vraies perles. C'était des perles de culture qu'elle a portées le jour de notre mariage, d'ailleurs, et notre belle-fille aussi, de belles perles. Mais ça n'a pas la qualité de la perle que Dieu fait sur des années. Quel genre de perle êtes-vous? Vous êtes tous des perles. Quel genre de perle? Une perle de culture ou une perle où Dieu a œuvré sur des années pour que vous soyez ce que vous êtes. Nous avons tendance à être des chrétiens micro-ondes plutôt que des chrétiens mijotés. Alors les cuisiniers vont comprendre ce que je veux dire. Est-ce que vous êtes un chrétien micro-ondes ou un chrétien mijoté? Vous avez compris? Oui. C'est rapide, oui. Bon, il faut que ça aille vite, oui. Dans le micro-ondes, 2-3 minutes après, c'est prêt, oui. Mais mijoter, c'est pendant c'est très longtemps. J'ai dû demander à Fin, parce que je ne suis pas cuisinier, mais mijoter, c'est un feu doux pendant longtemps. Et le goût est meilleur. Hein. Le goût est meilleur. Non, vous avez compris? Non, je ne sais pas. Je n'ai pas cuisiné, peut-être que ça vous échappe. Mon fils m'a dit, quand j'ai eu mon tout premier ordinateur, il y a plus de 30 ans, il a dit, je ne savais rien, il dit, papa, passe une heure dans le manuel chaque jour et tu sauras comment faire fonctionner un ordinateur. Alors, devinez. J'étais trop occupé pour prendre une heure par jour pour savoir comment faire fonctionner l'ordinateur. Et devinez quoi encore? Je ne sais vraiment pas faire fonctionner un ordinateur. Oh si, je fais quelques manipulations. Mais quand je vois mon petit-fils et ce qu'il fait avec mon ordinateur, bon, mais ça va trop vite. Hein. Enfin, une vie équilibrée et mûre est une vie de discipline. Paul le dit, je ne sais pas si j'ose lire ce passage dans 1 Corinthiens chapitre 9, mais il dit simplement, je traite durement mon corps, je maîtrise sévèrement mon corps, de peu qu'après avoir proclamé l'évangile aux autres, je me trouve moi-même disqualifié. Paul était un homme discipliné, et Dieu sait si Paul n'était pas un homme actif, mais il avait de bonnes disciplines spirituelles. L'homme ou la femme de Dieu qui est mûr et épanoui a un programme régulier d'étude de la parole de Dieu. C'est pas facile. Je vois ici des enfants en bas âge. Quand on a des enfants en bas âge, quand est-ce qu'on va vraiment se donner à étudier la parole de Dieu, à lire la parole de Dieu, à passer des moments dans la prière? Surtout si on a un travail à côté. Ben, Dieu vous aidera à trouver le temps et le moyen. Mais parfois, il faut sacrifier autre chose. Une demi-heure, une heure de télévision, par exemple. Bon. Le psaume 101, verset 2, dit que le psalmiste médite la parole jour et nuit. Moi, je ne réussis pas à le faire, mais enfin, c'est une indication qu'il faut le faire quand même. Le chrétien qui grandit a besoin d'une alimentation régulière et solide de la parole de Dieu. Et cette alimentation régulière et saine, et sans cette alimentation régulière et saine, il n'y a pas de croissance. Jésus, malgré un programme rempli, archi-rempli, a pris du temps régulièrement pour prier et pour partager une communion avec son Père. C'est certain, une vie disciplinée d'études et de prières est plus facile pour certains que pour d'autres, mais tous, nous devons rechercher cette discipline que Dieu désire, mais en étant souple et pas de manière légaliste. Il ne faut pas dire... Légaliste. Donc, oh là là, j'ai pas passé mes 15, 20 minutes, 30 minutes aujourd'hui. Oh là là là, je suis condamné. Non, quand même. Il faut pas être légaliste, mais il faut être souple. Il faut être souple dans le temps que nous passons avec Dieu. Cette vie de discipline s'applique à tous les domaines de notre vie, y compris à l'alimentation et à notre sommeil. Alors, je lutte avec ça parce que je suis un couche-tard et j'ai entraîné ma femme dans une habitude de se coucher à minuit plutôt qu'à 10h, 10h30 comme elle aurait aimé faire. Et maintenant, elle a l'habitude et il faut que je l'entraîne au lit. Bon, ben, enfin, non, mais pas tout à fait, mais enfin. Et pour moi, me coucher à 11h30 le soir, c'est déjà une victoire. Pour vous, c'est autre chose. Et qu'est-ce qu'on mange? Bah, le médecin a trouvé que j'ai un début de diabète. Alors j'ai changé mon gym. Je ne peux pas manger tout ce que je veux. Je prends un petit comprimé, un demi-comprimé le soir. Ça dépend de qui on est et de sa situation. Mais vous allez outre-Atlantique et vous allez voir des gens qui ne savent pas manger. Ah ben c'est vrai. Ah oui. Aux États-Unis, les gens ne savent pas manger. Ils mangent trois ou quatre fois par semaine dans un restaurant, dans une espèce de fast-food, une chaîne de restaurants, et vous pouvez remarquer par la taille de ces personnes qui n'ont pas une bonne alimentation. Est-ce que j'ai raison, vous qui savez quelque chose sur la nutrition? Non, bon, vous ici, bah, écoute, on va aux États-Unis, on revient en France, et puis il y a une différence énorme. Et les gens, qu'est-ce qu'ils sont minces ici, les gens? Parce qu'on a souvent, on a une meilleure alimentation. Enfin, attention un petit peu au McDo. Nous, on y va de temps en temps, les McDo, les Quick et tout ça. On y va rarement, mais par nécessité, parce qu'on est sur la route ou quelque chose comme ça. Bon. Et puis j'ai maigri. J'ai perdu 3 kilos. Hein. Bon. Ça aussi fait partie de notre discipline. Et de discipline de notre... Là, il faut de la discipline. Facebook et compagnie aussi. La discipline. Équilibre. Parce que Dieu est le Dieu de toute notre vie. Il est le Dieu de notre smartphone. Ben oui. Et si votre smartphone n'est pas dédié à Dieu, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Non, mais je suis peut-être un peu dur, mais... Est-ce que Dieu est le Dieu de toute votre vie ou pas? Ça revient à cela, n'est-ce pas? La meilleure discipline est simplement aimer Dieu profondément et agir sur la base de cette relation d'amour. Aimer Dieu profondément et agir sur la base de cette relation d'amour. Il paraît que Augustine a dit, on n'est pas sûr, aimez Dieu. Et faites ce que vous, qui vous plaît. Parce que si on aime Dieu, on ne va pas faire quelque chose qui va attrister Dieu ou le Saint-Esprit. Et Dieu vous guidera. Une vie équilibrée et mûre est le discernement et la recherche constante de ce qui est excellent ou ce qui est le meilleur. Dans Philippiens 1:10, Paul exhorte les Philippiens à discerner ce qui est vraiment important, les vraies valeurs, et à distinguer l'essentiel de l'accessoire. Le bon est l'ennemi du meilleur et du mieux, nous avons dit hier. Il faut savoir éliminer de très bonnes choses de notre vie pour laisser la place à ce qui est excellent. La vie peut être remplie de beaucoup de bonnes choses. Choisissez les choses excellentes. Une vie mûre et équilibrée, c'est se fixer des priorités selon Dieu. Quelle est la priorité de Dieu? Matthieu 6, 33. Un peu fort.
Rechercher la justice, le royaume de Dieu et sa justice.
Chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, fait d'être justifié par la foi en Christ. Et tout le reste vous sera donné en plus. Cherchez premièrement le règne de Dieu dans ta vie. On peut ajouter aussi, aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et Dieu guidera. Cinquième chose, une vie mûre et équilibrée, c'est se fixer ses priorités. Oh, j'ai déjà dit les priorités, pardon. Une vie mûre et... Sixième. Mûre et équilibrée, c'est éviter les dangers de l'extrémisme. D'une part, on a parlé des périls de l'activisme. Les résultats en sont nombreux. Le burn-out ou l'épuisement potentiel, je suis passé par là. Une tendance à négliger le développement de nos ressources spirituelles, à délaisser nos relations humaines, notre famille, nos amis, parce qu'on est tellement, tellement actifs. Et quoi de mieux pour un pasteur que de se donner à fond dans le ministère, mais pas en négligeant sa famille, pas en négligeant sa femme, pas en négligeant sa lecture personnelle de la parole de Dieu, sa prière. Non. Il faut avoir les bonnes priorités si on veut croître en Christ. Pas d'extrémisme. La piété personnelle, la contemplation, la vie calme possèdent aussi des dangers. Nous pourrions finir par faire peu ou rien du tout, Donc, évitons les dangers de l'extrémisme. Trop d'activisme, trop de contemplation. Soyons équilibrés. Nous ne devons pas oublier de cultiver notre vie dans toutes sortes de domaines. Je trouve triste les chrétiens qui manquent ce que j'appelle une culture générale. On ne connaît que ce qui est chrétien. Non, excusez-moi, je ne vous critique pas, si c'est le cas pour vous. Mais il y a des chrétiens qui n'écoutent que la musique chrétienne. Il y a beaucoup de bonne musique qui n'est pas forcément chrétienne. Il y a des chrétiens qui ne lisent que des livres chrétiens. Bon. Mais il y a des livres de grande valeur qui ne sont pas forcément des livres chrétiens. Il y a un monde là où Dieu nous donne beaucoup de possibilités. Dieu nous donne à sa création pour en jouir. Il nous a créés avec un esprit qui répond à la beauté de la nature et également la beauté de la culture. Il a mis à l'homme un esprit de créativité parce que nous sommes à l'image du Créateur. Je me souviens donc, il y a des années, on était en train de faire construire une église derrière la maison que l'église avait achetée. Il fallait pour cela que créer un passage dans la maison parce qu'il n'y avait pas de place. Il y avait des maisons tout autour. Et des engins passaient sous la maison, sous la cuisine de Joyce, de nombreuses fois par jour. Finalement, ils ont commencé dans le fond à construire l'église, mais pour cela, pour l'électricité, l'eau et tout ça, il fallait creuser des tranchées. À un moment donné, franchement, derrière notre maison, on avait l'impression que c'était les tranchées de Verdun. Non, mais franchement. Seulement, il y avait dans le fond, dans un coin, il y avait des fleurs. Et Joyce, c'est dans sa nature. Elle n'a pas regardé la boue et les tranchées, elle regardait les fleurs. Elle fixait ses yeux sur ce qui était beau. Et un jour, l'entrepreneur est venu et disant, vous savez, on doit encore creuser dans le jardin pour mettre une pompe, parce que le bâtiment était un peu en bas, il fallait une pompe pour relever ce qui sortait des sanitaires. Et pomper ça pour que ça aille dans la rue. Et où est-ce que vous allez mettre ça? Dans le coin là-bas où il y a les fleurs. Et Joyce a dit, mais vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas enlever les fleurs. Je suis rentré dans la maison et puis j'ai trouvé Joyce sur le lit, absolument dissoute dans des larmes. Et j'ai dit, mais chérie, qu'est-ce qui te passe? Elle a dit, ils vont enlever le seul coin de beauté dans le jardin et j'ai besoin de quelque chose de beau à regarder. Et j'ai dit, mais il y a moi. Voilà, vraiment. Vraiment. Non, mais Joyce est une personne qui est profondément positive. Elle cherche la beauté. Et malheureusement, étant daltonien, je ne peux pas toujours apprécier la beauté de la même façon qu'elle, mais enfin, pour les couleurs, mais j'apprends et je progresse. Mais est-ce que vous pouvez apprécier ce que Dieu vous a donné ou est-ce qu'il faut rester toujours dans les choses que nous appelons malheureusement chrétiennes? Ben, ce monde est chrétien, dans le sens que Dieu l'a créé. Dans ce sens-là, il y a beaucoup de choses mauvaises dans ce monde que Dieu n'a pas créé, ni n'a pas voulu. Alors, le monde est rempli donc de toutes sortes de choses qui nous rapprochent du Créateur. Soyez un chrétien qui sait apprécier la création de notre Dieu. On peut écouter, je vous ai dit, on peut écouter autre chose que la musique chrétienne ou lire les livres autrement que les livres. Mais il faut faire attention, chrétien. Attention à ce que vous lisez. Je pense que je vais terminer, j'ai encore une page, mais je vais simplement dire l'un après l'autre les points que j'ai. Parce que j'aimerais terminer par quelques remarques générales pour nous aider à croître dans une vie chrétienne mûrée et épanouie. L'importance d'un esprit d'obéissance. Un esprit d'obéissance. Est-ce que nous allons obéir à Dieu? Il ne vous dira pas sa volonté si vous n'êtes pas prêt à obéir. Il ne va pas perdre son temps. La deuxième chose, la connaissance de la volonté de Dieu. L'importance d'une intelligence, d'une mentalité renouvelée. Ne permettez pas au monde, dit Paul, de vous presser dans son propre moule, mais laissez Dieu refaçonner votre intelligence depuis l'intérieur, afin que vous fassiez la démonstration que le plan de Dieu pour vous est bon, qui répond à toutes ses exigences et progresse vers le but de la maturité. La connaissance de la volonté de Dieu. Dieu vous le donnera si vous le voulez, mais il faut le vouloir. Troisième chose, c'est l'engagement. Jésus a dit, renoncez à soi-même pour suivre Jésus. Prenez votre croix chaque jour. Alors, il y a des gens qui disent, la croix, c'est une affliction que Dieu me donne, une épreuve que Dieu me donne. Mais ce n'est pas ça. Qu'est-ce que c'était que la croix? Qu'est-ce que ça voulait dire pour tous les gens à l'époque romaine, la croix? La mort. La mort. Mourez chaque jour à vous-même et ayez la vie de Christ en vous. C'est ça. Se charger de sa croix. Quatrième chose, mettez vos dons spirituels à la disposition de Dieu et à son Église. C'est l'épanouissement et la plénitude lorsque nous servons les autres. Cinquième chose, un esprit de reconnaissance. Nous vivons dans un pays où les gens ne sont pas reconnaissants. Joyce et moi sommes reconnaissants pour tout ce que nous avons en France. Mais à écouter les gens autour de nous, bah franchement, la grogne tout le temps. On n'est jamais satisfait. Bon, il y a des améliorations, je suis d'accord. Mais l'attitude humaine normale, c'est le mécontentement. Tandis que Dieu nous demande un esprit de reconnaissance. Paul dit aux Philippiens, ne vous inquiétez de rien. Alors parfois je ris à ce verset, c'est tellement facile. Ne vous inquiétez de rien. Bon, oui, merci Paul. Mais en toute chose, par la prière et la supplication avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes et, puisque vous demandez avec reconnaissance, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, montera la garde autour de votre cœur. C'est ce que ça veut dire. Le mot grec veut dire « montera la garde autour de votre cœur ». La paix de Dieu vous gardera. Si vous êtes reconnaissant, si vous êtes grognant tout le temps, non, vous n'aurez pas la paix. Mais ayez un esprit de reconnaissance. Et finalement, sixièmement, une vie vécue dans et par la puissance de Dieu, nous en avons déjà parlé. J'aime beaucoup cette parole que nous trouvons dans le prophète Zacharie. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, sous-entendu humaine, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. La puissance de notre vie de chrétien ne vient ni de nos talents, ni par notre propre force, mais vient du Seigneur par son esprit. Que dire pour terminer ces deux jours ensemble? Juste un mot de témoignage. Bref, depuis plus de 70 ans comme chrétien et enfant de Dieu, j'ai vécu des moments de croissance comme des moments où j'ai stagné. Je peux affirmer que c'est dans les moments de croissance qui continuent toujours, malgré les nombreuses années derrière moi avec le Seigneur. C'est dans ces moments de croissance que j'ai le plus de joie dans ma relation avec Dieu. Dieu nous aime. Il vous aime. Il a démontré son amour, d'abord en donnant son Fils pour mourir pour vous, mais de bien d'autres manières. Et pouvoir croître en lui est un don de grâce merveilleux. Une source de profond bonheur. Soyons tous des chrétiens qui avancent avec lui dans le bonheur incomparable d'une croissance vers la maturité spirituelle. Parce que Dieu sait que c'est comme cela que nous aurons une vie de joie et de plénitude lorsque nous vivons la croissance en lui. Je vous remercie.